Comment les optimistes voient-ils le monde? Quelles qualités cultivent-ils? Comment s'entourent-ils?
Entreprendre, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc si vous n'avez pas de vie à côté, ben, vous passez quand même à côté de votre vie.
Very Good Vibes, un podcast Men's Up. 100% optimiste, 100% énergie.
Bonjour, nous sommes de retour pour un nouveau numéro de Very Good Vibes, votre émission optimiste sur les business leaders. Aujourd'hui, on va recueillir les conseils de Caroline Ramad, le CEO de 15 in Tech, engagée depuis de nombreuses années pour les femmes entrepreneurs de la tech.
Christelle Cronier.
Bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous êtes une entrepreneuse dans l'âme. Vous avez été pendant 3 ans à la tête de Willa, ex-pionnière.
Oui, effectivement. J'ai dirigé un des plus grands incubateurs de start-up dédiés aux femmes entrepreneurs pendant 3 ans.
Et vous avez créé votre propre start-up, 15 in Tech.
Oui, je viens de la créer en novembre dernier et on vient de lancer la première partie de la plateforme. Ouais.
Donc c'est un vrai pari et pourtant vous avez été pendant longtemps salarié avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat.
Oui, j'ai même travaillé dans... Enfin, je n'étais pas du tout fonctionnaire, j'étais salarié, mais dans la fonction publique, j'ai travaillé à la mairie de Paris pendant pas mal d'années.
Directrice adjointe du département numérique de la mairie de Paris.
Exactement, ça c'était mon dernier poste. Et donc effectivement, j'ai été salarié pendant un certain nombre d'années, mais j'ai toujours eu une mentalité d'intrapreneur, même avec des tout petits budgets, parce que quand vous travaillez dans le public, vous avez très peu de budget. J'ai toujours aimé développer des projets en allant pas du tout seulement travailler avec mon département, dépasser les propres frontières de ce qui était proposé pour toujours aller plus loin, faire des choses plus intéressantes, voilà.
J'imagine que c'est un gros risque finalement pour vous de vous lancer. Alors comment vous l'avez anticipé? Et comment est-ce qu'on anticipe de façon générale en fait pour les entrepreneurs?
Alors, je ne sais pas si je l'ai anticipé, mais je sais que quand je suis passée par Willa, finalement j'étais directrice d'une structure, donc j'avais des employés. Il a fallu gérer toutes les finances, redresser l'association qui à l'époque n'allait pas très bien financièrement et repositionner le business model. Donc finalement ça a été mon école de l'entrepreneuriat.
Multitâche, il faut être.
Multitâche. Donc j'avais déjà managé pas mal de gens, parce qu'à la ville de Paris il y avait quand même plus de 40 à 50 salariés qui étaient dans le département que je co-dirigeais.
Mais c'est quand même aux antipodes. Avec un esprit un peu plus fonctionnaire, j'imagine.
Dans les postes que j'ai exercés, même dans la fonction publique, j'ai jamais eu ni de mentalité de fonctionnaire, ni travailler comme
fonctionnaire. Pas forcément vous, je veux dire, dans vos équipes.
Oui, alors on avait beaucoup de contractuels. Donc, on avait quelques fonctionnaires, effectivement, mais très volontaires et pas mal de salariés, finalement, contractuels. Donc, moi, j'ai pas vécu trop ce côté fonction publique. On travaillait comme des malades. On était très réactifs, très agiles. Donc ça a été le premier pas. Le deuxième pas, c'est diriger une structure. Et finalement, j'ai fréquenté des entrepreneurs pendant 3 ans. Donc j'ai bien vu tout ce qui se passait, ce qui étaient les freins, les obstacles, les difficultés, pour pas non plus surestimer le passage à l'entrepreneuriat. Alors est-ce que c'est un risque? On a une chance en France, c'est que j'avais fait une rupture avec Willa, donc j'ai pu avoir le chômage pour me lancer. J'avais pas beaucoup de fonds, mais j'avais un réseau. Et donc je me suis dit, si je le fais pas à 40 ans, je le ferai pas. Donc j'ai sauté le pas en me disant, après tout, qu'est-ce que je risque? En un énième boulot salarié où je n'aurais pas exercé ma vision et mon leadership, j'avais l'idée, j'ai eu envie de la lancer. Donc oui, c'est un risque et en même temps, je me dis, qu'est-ce que je risque au final? D'échouer, ok, et alors, de toute façon, je retrouverai forcément un job.
Ça, c'est bien, le « et alors ». Alors, quelles sont les qualités essentielles pour un entrepreneur, selon vous?
Alors, je pense qu'il faut, avoir une énorme qualité d'écoute, parce qu'un entrepreneur, ça se trompe tout le temps. Ça, je veux dire, si on n'écoute pas, on n'écoute pas son marché, on n'écoute pas ses utilisateurs, on n'écoute pas ses employés, on n'écoute pas ses clients. Il faut beaucoup écouter, ça, j'ai appris à le faire, je ne savais pas trop le faire, donc c'est important d'être dans l'écoute.
Oui.
Quand on nous dit quelque chose sur soi, il faut être capable de se réadapter et de
se remettre en question.
Totalement, tout le temps. Tout le temps. Et pas dans le sens de doute perpétuel, mais plutôt de se dire, ok, là, j'entends, ça fait plusieurs fois, donc il faut l'entendre, il faut réadapter la manière de penser, la manière de gérer, etc.
Souplesse, agilité.
Souplesse, agilité et je dirais beaucoup de résilience parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même énormément de montagnes russes. Ça ne se passe quand même jamais comme vous l'avez imaginé. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il faut être très endurant. Il y a beaucoup de choses très positives, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de choses à gérer qui à un moment donné, ne vont pas exactement comme vous l'avez imaginé. Donc, il faut arriver à avoir de la souplesse. Il faut tout le temps imaginer des nouvelles solutions. Si vous restez bloqué sur quelque chose qui se passe mal ou qui n'avance pas, sans imaginer un plan B sans arrêt, voire C, voire parfois D, voilà, et le Z. Donc voilà, et bien en fait, dans ce cas-là, vous avez quasiment l'assurance que vous n'irez pas à la prochaine étape.
Comment vous faites-vous pour persévérer dans l'adversité et ne pas flancher finalement?
Alors déjà, j'ai une super cofondatrice, Gaëlle.
Donc bien s'entourer.
Bien s'entourer. J'ai des mentors, beaucoup. Et puis j'ai choisi aussi les premiers collaborateurs et collaboratrices pour leur envie d'avancer, leur envie aussi de nous soutenir quand à un moment donné, je veux dire, de dire bah non, là on prend le relais, on n'est pas... C'est pas que les dirigeants aujourd'hui qui... doivent tout le temps être dans le moteur. Il y a un moment donné, quand on flanche, ben oui, entre cofondateurs, c'est bien. Voilà, on a aussi Jean-Marc qui est dans l'équipe, même si lui, il a une entreprise, Jean-Marc Bénéi. Et effectivement, quand on a un doute avec Gaël, on va le voir, on en discute, on peut effectivement trouver une solution ensemble. Donc voilà, donc en fait, un, il faut vraiment bien s'entourer. Et il faut aussi s'entourer en dehors de l'entreprise parce que parfois, ben, vous êtes avec les cofondateurs, mais vous pouvez ne pas être d'accord en contre-cofondateur. Et donc, c'est bien d'avoir des mentors. Et moi, j'ai pas mal de mentors, même parfois très loin. Géraldine Lemeur qui habite à San Francisco. Une autre qui habite également à San Francisco, Aurélie Vincent, qui a été vraiment...
Qui sont CEO toutes les deux.
Alors, Géraldine Lemeur est investisseur et a dirigé un des plus gros incubateurs à San Francisco, qui s'appelle Ziri Finance. Et Aurélie Vincent est coach exécutif. Donc, elle a coaché le numéro 2 de BNP, voilà, le VP Google Services. Donc, ça me sert beaucoup, notamment pour la question de l'alignement par rapport au projet. Dans sa vie personnelle, il faut savoir aussi faire attention. Et moi, j'ai tendance à le faire, à ne pas s'oublier. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel, justement, après mon expérience de Willa, qui a été assez éreintante, sur lequel je fais absolument très attention. Quand je me sens fatiguée, et cette semaine, je me sens fatiguée, ouais. Eh bien, je sais que là...
Prenez du temps pour vous.
Bah là, ce week-end, je pars sans les enfants, je vais avec des copines, je laisse tout le monde.
C'est bien.
Voilà, j'ai fait Vivatec pendant 3 jours, j'étais complètement épuisée. Oui, je ne les ai pas beaucoup vues. Et il n'empêche que là, je sais que j'ai besoin de faire un break et de l'entreprise et... de la famille et de me faire un spa.
Je peux comprendre.
Ce qui est prévu ce week-end, vous voyez.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, de mettre plus les femmes en avant, d'aider les femmes entrepreneurs? Je sais que vous êtes aussi membre du conseil d'administration du comité français de l'ONU Femmes.
Oui, j'ai toujours été, je pourrais dire féministe, et je le suis, mais une féministe d'action. Ça veut dire que je ne vais pas faire des grandes théories. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, c'est 52% de l'humanité, donc... Il faut absolument qu'elles accèdent à toutes les positions, qu'elles soient politiques et évidemment dans la vie économique, parce que en plus, tous les chiffres aujourd'hui sont au vert pour que la présence des montrant et démontrant que la présence des femmes et donc la mixité aujourd'hui dans les grands groupes, dans les start-up, dans les fonds d'investissement amène énormément de croissance économique pour des raisons à la fois juste d'adresser un marché plus large, hein, on a plus d'idées, on est plus diverses, donc on est plus innovant, mais également pour le bien-être des équipes, le leadership aujourd'hui quand on a des équipes aussi mixtes et avec un leadership parfois plus féminin.
Plus doux.
Non, je dirais pas plus doux parce que je pense que ça dépend des femmes, effectivement. Il y en a qui sont pas vraiment des sœurs. Mais ça a été démontré que pour le bien-être des équipes, d'avoir des équipes équilibrées, tout simplement, ça permet d'avoir voilà, des meilleures ambiances de travail. Et donc, d'ailleurs, je ne crois pas qu'une équipe 100% féminine soit quelque chose de bien pour la société. C'est souvent pas bien. Ça crée aussi des stéréotypes. Donc, je pense que voilà, je prône vraiment au moins plus de 30 à 40% de femmes dans une équipe. Ça change vraiment la donne. Je pense que les hommes s'autorisent plus de choses aussi, notamment de moins rester tard au travail pour rien, pour faire voilà, pour se faire voir, etc., etc. Je pense qu'on
est... S'il y a plus de femmes, ils restent plus longtemps au travail.
Non, non, pas forcément, justement. Ça leur permet justement de un peu moins simuler, je pense, et d'être obligés d'adopter des codes qui aujourd'hui sont complètement, pour moi, appartenant au monde du passé.
Vous, alors, donc, vous œuvrez pour l'équité dans la tech, principalement, parce qu'il y a vraiment un problème de manque de diversité dans la tech. Alors, on a quelques chiffres. 10% des cofondateurs de start-up seulement sont des femmes. 3% seulement aussi sont des CEO. 8% des investisseurs, moins de 25% des collaborateurs dans le numérique. Et les femmes ne perçoivent que 2,7% du montant global investi en capital risque. Juste.
Ouais. C'est vraiment très
ça
faible.
Fait peur.
Pourquoi ça m'a frappé cet univers de la tech, c'est que quand vous lisez les magazines, les articles, c'est l'avenir. Enfin, c'est même notre présent, c'est déjà là. Vous voyez bien que ceux qui dirigent la technologie aujourd'hui dirigent le monde. C'est vraiment les nouveaux. On voit à quel point Mark Zuckerberg est reçu comme un président de la République. Je veux dire, il a les honneurs. Donc, on voit bien que ces gens-là dirigent le monde. 90% d'hommes. 90% d'hommes en tant qu'entrepreneurs et investisseurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce monde, qui est le monde de demain, celui de l'intelligence artificielle, alors je ne suis pas une experte, mais en tout cas, je sais que les algorithmes aujourd'hui sont entièrement biaisés. Il a été démontré... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais que Alexa et Siri étaient bien sexistes. Vous lui demandez, je ne dirais pas le gros mot, mais elle est flattée et elle dit oh, « désolée, je suis en train de rougir », etc. Ça, ça a été codé. Il faut la traiter un peu mal et vous verrez comment elle réagirait. Elle se sent flattée. Donc voilà. Et donc, on le sait, les algorithmes aujourd'hui sont biaisés. Si les femmes sont absentes de la data science et de tous les développements des algorithmes, on voit bien quel est le problème. Mais si elles dirigent également pas les entreprises et la stratégie de ces entreprises. On voit bien à quel point aujourd'hui, on a toute une série d'entreprises qui ne sont absolument pas profitables, oui, qui rentrent même en bourse.
Il y a une notion de performance aussi dans cette idée.
Il y a 60% aujourd'hui de performance en plus pour les startups co-dirigées par des femmes, avec seulement une femme. Je ne parle pas d'une mixité totale. Ça a été démontré par un fonds d'investissement First Round aux États-Unis dès 2015. Ils ont analysé toutes leurs données. 300 startups quand même, parmi les plus jolies startups, principalement aux USA, aux États-Unis. Et ils ont déterminé qu'il y avait 63% de performance en plus que une équipe entièrement masculine. Et BCG a également fait une étude l'année dernière. Pour $1 investi dans une start-up mixte, $1 investi dans une start-up, au global, c'est 78 cents de retour sur investissement quand il s'agit d'une start-up mixte et 31 cents seulement quand il s'agit d'une start-up entièrement fondée par des hommes. Okay. Donc aujourd'hui, il y a tout simplement...
Les chiffres sont parlants.
Ils sont parlants. Mmh. Donc c'est une question aujourd'hui de data. C'est pour ça que je parle beaucoup en données, parce que ça évite d'avoir des réactions. Oui. On n'est pas toujours prémunis de la réaction misogyne ou quoi que ce soit, mais...
les hommes. Hein, on est
voilà.
Pas...
Bah justement, notre plateforme, elle est inclusive. La plateforme sera inclusive, la plateforme 50 Tech. Ouais. Donc, du coup, nous, on est au contraire. On est persuadés que c'est avec les hommes qu'on pourra le faire.
50 Tech, dans le nom est votre objectif, c'est-à-dire 50% de femmes dans la tech.
Oui, et on voit bien qu'on inclut également les hommes dans notre perspective. On n'est pas en train de parler de 100% de femmes dans la tech aujourd'hui.
Alors du coup, à travers 15 Tech, quels sont les moyens que vous apportez aux femmes? J'ai vu des outils qui leur permettent de partager les savoir-faire, les relations.
Oui, en fait, on va utiliser tout ce qu'on appelle le crowdsourcing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les savoirs, quand vous avez monté votre entreprise, vous savez énormément de choses. Donc la question aujourd'hui, c'est comment vous organisez ce réseau. Les femmes sont moitié moins accompagnées que les hommes dans des réseaux d'accélérateurs, incubateurs, là où quand même se passe le savoir aujourd'hui. L'idée étant de dire qu'on va décloisonner tout ça et faire que, à la fois entre femmes de la tech, mais également entre personnes de l'écosystème, on puisse se donner les meilleurs conseils, se poser les questions et obtenir une réponse immédiate. Et quand vous avez un challenge qui vous est proposé, que vous puissiez être mis en contact avec la meilleure personne au bon moment.
Faciliter les financements aussi. Et vous avez même mis en ligne un dictionnaire de la tech.
Alors, on va le mettre en ligne, mais effectivement, ça sera un dictionnaire sur lequel on a pour l'instant référencé 1500 mots et sur lequel les personnes de notre communauté pourront rajouter des définitions. Notamment, il y a beaucoup de vocabulaire un peu compliqué quand vous levez des fonds, sur tout ce qui est term sheet, bad liver, good liver. Ils sont plein de... qui sont en fait vraiment des choses qui s'apprennent sur le tas. Mais voilà. Mais en fait, il faut le savoir, avant de lever des fonds, il faut quand même que vous connaissiez un petit peu.
Ouais. Donc, c'est une forme de mentoring.
Voilà. En fait, c'est plus que du mentoring, c'est une base de savoir, c'est une base de partage et c'est une base de connexion et de matching. Et surtout, on est en train de constituer la plus grande base de données de femmes aujourd'hui dans l'univers de la technologie, à la fois fondatrice de start-up, mais également, je veux dire, dans tous les métiers aujourd'hui, de tous ces nouveaux métiers qui sont liés à la tech au sens très large, de l'ingénierie jusqu'à les nouvelles méthodes de vente. Aujourd'hui, il faut utiliser le digital pour vendre.
Vous avez lancé également le Female Founder Challenge.
Oui, on a co-organisé ce... Alors, c'est bien plus qu'un prix. On a eu cette idée qu'on a proposée à Vivatech, du coup, qui l'a co-organisé avec nous.
Le salon de la technologie. Hein.
Oui, le grand salon qui a eu lieu la semaine dernière et sur lequel on a lancé la bêta de la plateforme. Et donc, on a proposé ça à Vivatech et on a lancé un énorme concours à destination de toutes les start-upeuses dans le monde. Oui, on a eu 400 candidatures de 55 pays. Exactement, 55 pays. Et on en a fait venir. C'est là que c'était beaucoup plus qu'un challenge avec un concours. On va donner que de la visibilité aux femmes. Aujourd'hui, on peut plus se contenter de ça. L'idée était de faire venir 60 start-upeuses le matin du monde entier et de les matcher. Donc, ce qui se passera sur notre plateforme après, c'est un peu notre, ce qu'on appelle le POC, Proof of Concept.
C'est le teaser.
Voilà, avec 30 fonds d'investissement internationaux. Donc ça s'est passé dans la matinée. Et l'après-midi, on en a présenté 10 sur scène, des États-Unis, d'Europe, donc Londres, Espagne, Allemagne, on avait du Nigeria. Et donc, ces femmes-là ont pitché devant un jury vraiment de très haut vol, donc avec nos partenaires Atomico, Ventech, Jane VC. Et on a, du coup, elles ont pu vraiment demander les fonds, donc on leur demandait de demander combien elles avaient besoin de lever. Donc il y en avait qui avaient besoin de lever ce qu'on appelle un seed round, donc c'est-à-dire en dessous de 5 millions d'euros, et d'autres plus de 5 millions d'euros, donc une série A. Et ce sont les deux pans sur lesquels on ne retrouve pas les femmes aujourd'hui. Donc si on ne débloque pas ça, on ne débloque pas l'accès au financement des femmes. Et on a eu des projets absolument incroyables. On a fait, c'est Metsaf de Viviane Nwaka qui a gagné du Nigeria et qui est une start-up qui utilise la blockchain pour sécuriser la chaîne de médicaments, de l'industrie jusqu'à la pharmacie et les hôpitaux, puisqu'il y a beaucoup de contrefaçons en Afrique. Et elle a un énorme marché, non seulement en Afrique, mais également en Russie, où ça se passe, et d'autres pays. Et elle levait 7 millions d'euros pour aller jusqu'à sa prochaine étape de développement. Donc, on a eu ces très beaux projets. Et maintenant, on va faire un suivi pour voir qui a réellement levé aussi à l'issue du Female Founder Challenge, pour dire que nous, on n'était pas dans des histoires de visibilité, mais vraiment des success stories, en fait, de levée de fonds. Voilà, de femmes. Et on ne prône pas que la levée de fonds, ouais, à tout prix, mais pour celles qui ont besoin de lever, il faut qu'elles y arrivent.
Donc, beaucoup de projets. Alors, qu'est-ce qui vous booste, vous, le matin? Alors, enfin, tous les jours,
bah, le matin.
Est-ce que vous avez une routine matinale?
Alors, moi, j'ai deux filles de 5 et 8 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous bousille toute routine matinale. Donc, si vous vous levez à 6 heures, elle se lève à 6 heures. Donc, moi, personnellement, je suis assez anti-routine matinale. Si j'ai un café, ça me suffit. Voilà, je prends mon café.
Non, parce qu'on dit toujours que les entrepreneurs, ils se lèvent pour faire du sport. Alors, moi, à 6 heures du matin.
Non, mais moi, j'appelle ça le bullshit de l'entrepreneuriat, le nombre d'articles que vous lisez sur ce sujet. Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, hein, ça doit être clair, qui n'ont pas de compagnons non plus, à mon avis, qui vivent seuls dans une
comme un pour s'occuper des gosses.
Voilà. Et donc, moi, j'ai essayé. Ça sera peut-être pour plus tard, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, je me contente d'un café, de les voir le matin. Bon, parfois, c'est joyeux, parfois, on s'énerve un petit peu, mais globalement, ça me fait quand même plaisir de les voir.
Quels sont vos trois conseils Very Good Vibes alors à envoyer à tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui nous écoutent?
Ne vous fixez pas de barrières. Si vous avez vraiment un problème que vous avez rencontré, que vous avez envie de le résoudre, il n'y a rien de plus fort que ça. Donc, il faut suivre son instinct et, dans la mesure du possible, hein, quand on peut le faire, quand c'est la bonne étape et le bon moment pour vous, oui, il faut vraiment y aller. Ça vaut le coup. C'est beaucoup de travail, mais le salariat, c'est aussi beaucoup de contraintes. Ça, c'est le premier conseil. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Je ne sais pas si c'est tant que ça, la liberté, parce que... en tout cas, dans la sensation de pouvoir exercer votre vision et créer un impact direct. Quand vous êtes dans des projets impact, hein, notamment comme le mien, peut-être des startups dans le marketing et tout ça, ils ont peut-être la moindre sensation de changer le monde, mais
donner
il y a
du
vraiment
sens, quoi.
Donner du sens, je veux dire, à ce qu'on fait.
Enfin, on peut le
à
faire dans le salariat aussi, mais
voilà. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat permet de faire ça. Et puis, je pense que c'est aussi une capacité et une possibilité de créer le modèle de société et de comment dire d'entreprise avec vos collaborateurs. Voilà. Qui est le vôtre. Moi, j'ai un mode de collaboration assez empathique, très collaboratif. J'ai pas envie, on se met déjà la pression pour réussir, mais du coup, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise ambiance de travail. C'est pas du tout, j'ai envie que ça soit le Club Med, mais c'est très important pour moi que chacun puisse trouver sa place et que quand ça ne le fait pas, parce que ça arrive, et puis parfois on est sous tension, donc moi je suis pas non plus tout le temps, je dis, c'est pas les bisounours, voilà, mais qu'on puisse s'exprimer et qu'on puisse trouver des solutions et que si ça ne le fait pas, qu'on trouve aussi la manière de se le dire de manière honnête et propre, pas dans la violence, pas comme on le voit aujourd'hui dans les relations de travail, où je trouve qu'on est dans un monde où les gens...
On oublie un peu l'humain.
Voilà, on oublie complètement l'humain, on est déshumanisé. Si on n'est pas efficace ou qu'on n'est pas bon dans un domaine, on a l'impression qu'on est bon à jeter. Et ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions dans la vie des gens. Et moi, je dirais, voilà, entreprendre, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, si vous n'avez pas de vie à côté... vous passez quand même à côté de votre vie. Même si vous avez réalisé l'idée de votre vie, il faut aussi faire la place pour avoir un amoureux, une amoureuse, et des enfants si vous en voulez, voyager, se faire des petits kiffs. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire, mais vraiment, j'essaye, j'y travaille beaucoup.
Sur ces sages paroles, merci beaucoup Caroline. Nous, on vous envoie plein de very good vibes pour tous vos projets et pour l'équité dans la tech. Et on vous envoie également à vous tous des very good vibes et on se retrouve très bientôt dans notre émission.